Radio Prague, les informations. Bonjour, le ministre des Finances dénonce une chasse aux sorcières dans l'affaire Parkanova. 65 milliards d'euros, tel était le montant de la dette publique de la République tchèque à la fin du premier trimestre. Et puis enfin en football, Tomáš Hrušický reste très incertain pour le match décisif contre la Pologne ce samedi à l'Euro 2012. Le ministre des Finances et vice-président du parti Top 09, Miroslav Kalousek, a critiqué la police qui a lancé des poursuites contre la vice-présidente de la Chambre des députés, Vlasta Parkanova, membre de son parti. Selon Miroslav Kalousek, la demande de levée de l'immunité de l'ancienne ministre de la Défense sous le gouvernement Topolánek s'apparente à une chasse aux sorcières. Soupçonnée d'abus de pouvoir lors de l'achat douteux et très onéreux de 4 avions militaires espagnols Caça en 2009, Vlasta Parkanova a été défendue par Miroslav Kalousek, qui argue que la décision de l'achat avait été prise collectivement par le gouvernement de l'époque. 65 milliards d'euros, tel était le montant de la dette publique de la République tchèque à la fin du premier trimestre de cette année. Il s'agit d'une augmentation de 4,5 milliards d'euros depuis le début de l'année et de plus de 8 milliards d'euros en l'espace d'un an. Annoncé une première fois début avril, les chiffres ont été confirmés ce vendredi par le ministère des Finances. Les ventes à l'étranger des 50 plus importantes entreprises exportatrices tchèques ont augmenté de 8% en 2011 pour s'élever à 36 milliards d'euros total. Sans surprise, le premier exportateur est resté le constructeur automobile Škoda Auto avec plus de 9 milliards d'euros devant Foxconn CZ, société spécialisée dans les technologies d'information et la production d'appareils électroniques. Le classement a été communiqué ce vendredi par l'association Tchèque Top 100. Une centaine de photographies de l'ancien dissident et président Václav Havel sont exposées à partir de ce vendredi et jusqu'au 6 juillet prochain à l'hôtel de ville de la vieille ville de Prague. Les photographies, dont certaines n'ont encore jamais été publiées, ont été prises entre 1988 et 2011 par les photographes de l'agence de presse tchèque ČTK. Les archives de celle-ci contiennent au total plus de 14 000 photos de l'ancien président disparu il y a bientôt 6 mois. L'exposition, inaugurée solennellement jeudi soir en présence de la veuve du président, présente Václav Havel en tant que figure de proue de l'opposition contre le régime communiste, chef d'État et grande personnalité de la vie culturelle tchèque. On passe au sport et au football. Tomáš Hrušický pourra-t-il jouer ou ne pourra-t-il pas jouer à la veille de la rencontre décisive contre la Pologne samedi soir à Wrocław pour la qualification pour les quarts de finale du championnat d'Europe? C'est la question que se posait l'ensemble de la presse tchèque ce vendredi, sorti à la mi-temps du match victorieux contre la Grèce mardi, victime d'une blessure au tendon d'Achille. Le capitaine et meneur de jeu de la République tchèque reste incertain pour le troisième et dernier match de groupe contre la Pologne. Une victoire, rappelons-le, garantirait une qualification aux Tchèques, tandis qu'une défaite les éliminerait et enverrait la Pologne en quart de finale. En cas de match nul, les Tchèques seront également qualifiés, à la condition toutefois que la Grèce ne batte pas la Russie dans l'autre match du groupe A. On termine avec un mot de météo. C'est un temps largement ensoleillé qui continue de prédominer ce samedi, jour de la fête des Zbignek. Des nuages apparaîtront toutefois en fin d'après-midi, essentiellement dans la partie nord-ouest du pays, et pourraient entraîner quelques averses ou orages. Les températures sont en hausse et varient entre 27 et 31 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à l'écoute de ce programme d'actualité de Radio Prague. À la une aujourd'hui, la démission du président du ministère public supérieur de Prague, Vlastimil Rampula, soupçonné d'avoir commis de graves erreurs dans la gestion du ministère. Les détails dans quelques instants. Vous entendrez ensuite Jean-Pierre Plaza et Marie-France Soulagné, que Radio Prague a récemment rencontré en France. Jean-Pierre Plaza et Marie-France Soulagné vivent à Marmande, où ils dirigent la compagnie Lux in Tenebris. Nous parlerons de leur mise en scène des pièces de Václav Havel. La seconde partie de notre programme sera réservée à une revue de presse. « Le président du ministère public supérieur de Prague, Vlastimil Rampula, a démissionné. Cette démission est l'aboutissement d'un long processus qui démontre la nécessité de redéfinir les règles selon lesquelles les fonctionnaires du parquet sont nommés et révoqués. Selon le ministre tchèque de la Justice, Jiří Pospíšil, ce départ est important pour l'assainissement et la réforme du ministère public. Václav Richter.
C'est déjà le second départ de Vlastimil Rampula, révoqué pour la première fois en octobre 2011 par le président du ministère public suprême Pavel Zeman. Il fait alors appel à la cour municipale de Prague qui lui donne raison. En février 2012, il est donc rétabli dans ses fonctions, mais le ministre de la Justice pourvoit en cassation contre cette décision de la cour municipale et obtient gain de cause auprès de la cour administrative suprême. Selon ce verdict, les défauts et les négligences dans le travail de Vlastimil Rampula étaient évidents et répétés. Dans certaines affaires, il restait inactif, dans d'autres, il manifestait une activité fébrile et y intervenait d'une façon incongrue. Le président de la Cour suprême administrative, Josef Baksa, a donc constaté.
La Cour municipale de Prague, en examinant la décision du ministre de la Justice sur la révocation de Vlastimil Rampula, a traité certaines questions d'une façon trop formelle et a sous-estimé l'importance d'autres questions. Ces faits dans leur ensemble doivent être qualifiés d'infractions graves aux devoirs du président du ministère public.
Le ministre de la Justice, Jiří Pospíšil, se félicite de ce résultat qui, à son avis, va permettre au ministère public de poursuivre son processus de réforme et d'assainissement.
Ce verdict me donne une grande satisfaction parce que la Cour administrative suprême a confirmé que ma décision de révoquer Vlastimil Rampula de ses fonctions avait été juste. La Cour s'est pratiquement identifiée avec les arguments que j'avais invoqués dans ma décision.
Le ministre et le président du ministère public suprême reprochent à Vlastimil Rampula, entre autres, sa passivité dans l'affaire de la privatisation controversée de la société minière Mostecka Uhelna et des négligences dans la gestion judiciaire des transferts illégaux d'argent d'Investiční et Poštovní banka, banque postale d'investissement. Il constate également que Vlastimil Rampula a failli à ses devoirs et est resté longtemps inactif dans l'affaire des avions de chasse Gripen que l'armée tchèque avait loué en Suède pour 19,6 milliards de couronnes, 754 millions d'euros, et sur laquelle planent des soupçons de corruption. Bien que Vlastimil Rampula rejette toutes ces accusations, il a été obligé d'accepter le verdict et a déjà quitté son poste. Le nouveau président du ministère public sera nommé dans quelques semaines. L'intérimaire sera assuré par le premier vice-président du ministère public, Libor Grigarek, lui aussi une personnalité très controversée. Le président du ministère public suprême, Pavel Zeman, voit non seulement l'effet immédiat de ce changement, mais lui donne également une dimension plus générale.
Ce verdict exprime clairement, au moins dans sa partie finale, l'idée que la structure du ministère public et les rapports y existants ne reflètent pas suffisamment les besoins de la société et du parquet dans la lutte contre la criminalité. Je vois donc dans ce verdict une impulsion à un changement législatif, à un amendement de la loi sur le ministère public. Et cet amendement de la loi définira aussi la durée du mandat des procureurs et stipulera des changements périodiques à leur poste.
Et Pavel Zeman de souligner que si l'amendement est adopté, les nouveaux représentants du ministère public seront choisis dans le cadre d'un concours et selon des critères objectifs, ce qui profitera à la qualité de leur travail.
Le 15 juillet prochain, le théâtre Husa na Provázku, une compagnie tchèque de Brno, présentera une version internationale de sa pièce Circus Havel au Festival d'Avignon. Un mois avant la tenue de cet événement exceptionnel qui rendra hommage à l'ancien président dramaturge Václav Havel, nous vous proposons de rencontrer sur Radio Prague le comédien et directeur artistique de la compagnie Lux in Tenebris, Jean-Pierre Plaza, qui avait présenté à plusieurs reprises à Avignon ainsi qu'en République tchèque ses mises en scène des pièces de Václav Havel. Jean-Pierre Plaza et son épouse et metteuse en scène Marie-France Soulagnier nous parlent de leur adaptation théâtrale des Lettres à Olga de Václav Havel.
On a joué en Avignon, évidemment. On a joué ici dans les théâtres. Et puis, nous est venue l'idée de le jouer au cinéma, en avant-première ou lors de soirées exceptionnelles. Et donc, j'ai joué ça en première partie. Ensuite, on allait casser un petit casse-croûte avec les spectateurs. Et ensuite, on projetait un film tchèque. Et la dernière fois, le film, c'était « Moi qui ai servi le roi d'Angleterre », un film exceptionnel sur le pouvoir de l'argent, par exemple. Et là, je sais qu'il y a... Alors, on continue, puisqu'il y a de cinéma en cinéma. Et puis là, je sais qu'il y a un film qui vient de sortir avec un gros succès en France, en tout cas, qui s'appelle « Alois Nabel ».
Mmh. Et, un film d'animation.
Oui, c'est ça, très fort sur ces années-là, justement. Mmh. Et je pense que encore et encore, nous allons jouer Lettre à Olga, accompagné de ce film d'animation. Voilà.
Marie-France, qu'est-ce qui vous attire le plus dans le théâtre de Václav Havel ?
L'humain. Tout ce qui est dit sur l'être humain, les émotions, la sensibilité, voilà, la vérité. C'est quelqu'un qui ne triche pas et son théâtre est un théâtre sincère.
Voilà. Oui, moi aussi je suis d'accord avec ça. Il trouble. Et il peut nous faire sourire, même dans le désastre, parce qu'il y a ce côté absurde qui est toujours là, hein, ce côté paradoxal. Hein, et à la fois, on a l'impression d'être des marionnettes prises, mais ça ne devient jamais grotesque. Il y a toujours la souffrance derrière, cette petite souffrance, mais en même temps, il y a cet espoir. Il ne donne pas de leçons, il ne fait que montrer les choses, il se garde évidemment de donner une morale ou quelque chose comme ça, et c'est dans ce sens que c'est un grand écrivain.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un autre auteur tchèque qui vous inspire, que vous connaissez?
Alors, on connaît Kundera, mais bon. C'est particulier. Voilà. Alors oui, on connaît un Polonais aussi, qu'on aime bien, l'Europe de l'Est, c'est Cantor. Évidemment, c'est un théâtre très fort et qui bouleverse. Hein. Voilà. Moi, je sais que quand j'ai joué audience, il y a des personnes qui ont été clouées. Il y a une dame qui m'a dit, si j'avais vu, je ne serais pas venue la voir en premier. C'était la première pièce qu'elle est venue voir quand elle est arrivée au festival, parce qu'elle étouffait. Elle avait l'impression d'être voyeur et de participer à quelque chose, à une danse macabre, hein, presque. Donc, voilà. Et moi, c'est le trouble que j'occasionne qui m'intéresse. Voilà, parce qu'on se sent tous concernés dans ce cas-là. Et ça, c'est beau.
Nous retrouverons Jean-Pierre Plaza ce samedi dans Culture sans frontières. Place maintenant, comme tous les 15 jours, à une revue de presse sur Radio Prague. Plusieurs sondages ont récemment confirmé que la méfiance des Tchèques à l'égard de l'Europe avait tendance à augmenter. La dernière édition de l'hebdomadaire Respect s'interroge sur le chemin que pourra emprunter la société tchèque qui refuse sa perspective occidentale, mais qui n'en connaît pas d'autre. Il y a 20 ans ont eu lieu les dernières élections législatives au niveau fédéral qui ont précédé l'éclatement de la Tchécoslovaquie. Un rappel de cet événement est apparu dans la presse qui a également largement commenté tout ce qui avait trait au 70e anniversaire de l'anéantissement du village de Legice et qui a notamment retenu le message adressé à cette occasion par le président allemand Joachim Gauck. Alena Gebertova et Václav Richter vous en diront plus.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
D'abord, c'est une enquête effectuée par l'agence STEM qui a révélé que plus de la moitié de la population tchèque est mécontente de son appartenance à l'Union européenne. Ainsi, si le référendum sur l'adhésion avait lieu aujourd'hui, le non aurait le dessus. L'hebdomadaire cite d'autres sondages qui ont confirmé cette tendance anti-européenne.
La société People in Need s'est adressée pour sa part aux étudiants du cycle secondaire, ce qui lui a permis de constater que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, un tiers des jeunes portent sur l'Union le même regard hostile et méfiant que la génération de leurs parents.
Le journal se réfère en outre aux résultats d'une recherche mise sur pied par l'Institut pour l'analyse globale de l'opinion publique Pew Research Center, qui ont été publiés en mai dernier et dont le but était de savoir comment les gens percevaient la crise économique. Ils ont révélé que pour les Tchèques, plus que pour tout autre État étudié, c'est l'Union européenne qui est responsable des problèmes économiques qu'affronte actuellement l'Europe. Se méfiant de l'Union européenne, il croit en revanche en l'élan purificateur de l'économie.
En cherchant des explications à cette approche sceptique à l'égard de l'Europe, le sociologue Jan Hartl indique en premier lieu le traumatisme causé par la fameuse trahison de Munich, considérée comme la trahison d'un petit État démocratique au cœur de l'Europe par les puissances occidentales.
Et il ajoute...
D'un autre côté, nous nous prenons depuis toujours pour une partie intégrante de l'Occident. De ce fait, nous estimons n'avoir pas besoin que celui-ci nous donne des conseils. Il s'agit d'un mélange de complexes d'infériorité et de la légende sur l'exception tchèque.
Jan Hartl remarque également qu'à la différence des Slovaques ou des Polonais, nous ne nous sentons pas menacés.
Quand on interroge les Tchèques sur la manière dont ils voient l'apport de l'Union européenne ou de l'OTAN, ils mettent toujours l'accent sur des choses d'ordre financier ou matériel. Pour eux, l'entrée dans l'Union représente une opération comptable qui doit apporter un profit. Du moment où cette opération paraît moins avantageuse, les gens estiment ne plus avoir besoin du groupement occidental appelé l'Union européenne.
L'auteur de l'article signale que c'est une approche qui est dans une grande mesure soutenue par l'actuel cabinet de Petr Nečas, même si son discours public se présente différemment. Il donne en conclusion la parole à Petr Drula, directeur de l'Institut des Relations internationales, qui dit
« Cette société a besoin d'une nouvelle perspective européenne qui ne constituerait pas une simple opération comptable, mais qui impliquerait la Tchéquie et qui serait positive. Il s'agit aussi de modifier la sensibilité de la représentation politique vis-à-vis de l'Europe. Elle ne doit pas la considérer comme une contrainte, mais comme une belle occasion annonçant un grand succès tchèque. »
Il y a 20 ans, en juin 1992, ont eu lieu les dernières élections législatives tchécoslovaques. Ces résultats ont donné un coup d'envoi à l'éclatement de la Fédération tchécoslovaque en janvier 1993. Le quotidien économique Hospodářské noviny a rappelé cet événement en donnant la parole à des personnalités de la vie politique et publique tchèque et slovaque qui ont présenté dans ces pages leur appréciation de cet événement historique. Ivan Mikloš, ex-ministre slovaque de la privatisation, s'est confié.
J'étais un partisan farouche du maintien de l'État commun des Tchèques et des Slovaques, mais aujourd'hui je considère que son éclatement était inévitable. Heureusement, nous avons réussi à très bien maîtriser ses retombées, au point que cette partition n'a pas eu d'impact négatif sur les relations entre nos pays et nos nations. Autrement dit, tout est comme il faut.
Pour Ivan Mikloš, la partition cultivée et à l'amiable est ce dont Tchèques et Slovaques peuvent être à juste titre fiers, tout comme de la division des biens fédéraux, qui semble avoir constitué un exploit unique dans le contexte international. Et l'ex-ministre slovaque de résumer.
Grâce à cette partition, la Slovaquie a été contrainte de s'émanciper. Ce n'était pas facile, il est vrai, mais finalement il s'agit d'un coup réussi. Je pense que si l'on avait cherché à conserver un État commun à tout prix, cela n'aurait profité à personne. Les accusations et les soupçons ne feraient qu'altérer les relations mutuelles. Le fait que celle-ci demeure toujours très bonne est clairement le fruit de la façon dont nous avons su nous séparer.
On dirait que cette année, nous avons redécouvert Lidice. C'est ce que nous avons pu lire dans une récente édition du quotidien Lidové noviny, qui a constaté que le 70e anniversaire de l'anéantissement de ce petit village tchèque par les nazis en juin 1942 a suscité une attention presque jamais vue auparavant. Le rappel de cette tragédie a été, selon le journal, puissant et spontané, tant dans les médias qu'au niveau officiel, il écrit.
Dans le monde, Lidice représente le symbole le plus connu des souffrances de la nation tchèque pendant la guerre. Il symbolise le troisième plus grand massacre en masse de citoyens tchèques. Le premier, ça a été le gazage du camp familial à Auschwitz, comptant 3792 juifs tchèques. Le deuxième, la liquidation du camp Tzigane, également à Auschwitz, suivi de Lidice, avec ses 340 morts, y compris ceux qui ont péri dans les camps de concentration.
Et le journal de s'interroger, sans trouver de réponse, pourquoi le côté hautement symbolique de Lidice a été si longtemps mis de côté? Pourquoi Lidice n'est pas devenu un lieu symbolique par excellence, et ce dès la chute du régime communiste? Pourquoi n'y a-t-on jamais vu une scène similaire à celle montrant en 1970 le chancelier allemand Willy Brandt agenouillé devant le mémorial du ghetto de Varsovie?
L'ensemble des médias tchèques ont donné en outre un large écho à la lettre qui a été adressée à l'occasion du 70e anniversaire de la liquidation des villages Lidice et Ležáky par le président allemand Joachim Gauck à son homologue tchèque Václav Klaus.
Une lettre dans laquelle il est entre autres question de la responsabilité allemande dans ces massacres qui sont qualifiés d'actes terroristes. Le président allemand y exprime également son profond chagrin et sa honte, ainsi que son admiration pour le courage des parachutistes tchécoslovaques qui ont commis l'attentat contre Reinhard Heydrich.
Pour les historiens tchèques, il s'agit du message le plus humain au sujet de Lidice qui ait jamais retenti d'Allemagne. Dans les pages de Lidové Noviny, nous avons également pu lire.
Politologues et historiens font remarquer que c'est probablement pour la première fois qu'un haut représentant allemand prononce des paroles aussi fortes et convaincantes. Pour eux, il s'agit d'un grand geste.
Voilà, c'est par cette revue de presse préparée par Alena Gebertova que s'achève, chers amis, le programme en français de Radio Prague. Il a été présenté par Magdalena Hrozinkova. Merci de votre attention et de votre fidélité. Bon week-end. Au revoir, à demain.